Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous, juste un mot avant l'épisode d'aujourd'hui qui est donc, comme son titre l'indique, consacré à l'Arabie Saoudite, qui est assez long comme vous le voyez et qui est en fait à spectre assez large parce que on a la chance d'avoir Fatia Dazieni à l'IRSEM qui est une remarquable spécialiste de l'Arabie Saoudite de l'extérieur, dans ses dimensions stratégiques, mais aussi dans ses dimensions intérieures et politiques. Et évidemment, c'est ces deux plans qui communiquent énormément dans le cas des monarchies du Golfe et de l'Arabie Saoudite en particulier. Et c'est difficile de comprendre, par exemple, pourquoi le prince héritier Mohamed Ben Salman est dans la position difficile où il est en ce moment avec l'allié américain, depuis l'assassinat de Jamal Khashoggi, avec toutes les conséquences stratégiques que ça a, sans comprendre les problématiques politiques et les enjeux de succession qu'il gère en même temps. Donc, l'émission et la discussion embrassent vraiment un angle large, et on remonte jusqu'à la constitution du royaume Séoud, avec le pacte noué entre les Séouds et le wahhabisme dans l'Arabie du XVIIIe siècle, qui continue jusqu'à aujourd'hui et qui forme une dimension centrale de la politique intérieure et extérieure saoudienne. Mais on parle aussi de la gestion dynastique des Séouds, qui est étonnante, avec ce trône qui passe de frère en frère depuis les années 50. On parle de l'alliance avec les États-Unis et comment c'est aussi le ferment de base de la formation de l'État saoudien, etc. etc. Alors c'est d'abord parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup et que je trouve ça fascinant comme histoire, et que Fatia Dazieni est la bonne interlocutrice pour ça, mais aussi parce que c'est une dimension qu'on entend rarement, je trouve, et que donc c'était l'occasion. Et je crois qu'on rate un peu quelque chose quand on se contente de prendre les choses à l'avènement du roi Salman en 2015 ou de MBS en 2017, et qu'on chante un peu les dynamiques dynastiques profondes derrière ça. Mais même si, donc, je trouve ça très intéressant et important, je me suis aperçu en le montant que c'était quand même assez long, et j'entends aussi qu'il y a probablement des auditeurs du Collimateur qui sont moins captivés par les querelles et le fonctionnement dynastique du clan Séoud. Et donc, si vous voulez aller plus directement aux enjeux militaires et stratégiques d'aujourd'hui, avec la question de l'Iran, d'Al-Qaïda, la guerre au Yémen, et le froid avec la nouvelle administration américaine, vous pouvez aussi passer la première partie et aller directement autour de la minute 47-48, parce que c'est là que ça commence vraiment dans cette dimension plus précisément stratégique et militaire. Donc, à tout de suite, au cœur du Moyen-Orient et dans les sables d'Arabie, pour cette discussion avec Fatia Dazieni. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et aujourd'hui, pour parler de l'Arabie Saoudite, de sa puissance et de sa stratégie géopolitique, mais aussi des leviers de cette puissance, j'ai le plaisir de recevoir Fatia Dazieni, chercheuse Golfe Moyen-Orient à l'IRSEM, spécialiste des monarchies de la péninsule arabique et du Golfe Persique, auteur notamment récemment de « L'Arabie Saoudite en 100 questions » paru chez Texto. Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour.
Alors, c'est évidemment un sujet complexe et qu'on peut déployer de plein de manières différentes pour expliquer les aspects, disons, les plus contemporains de la puissance saoudienne à l'échelle régionale et à l'échelle mondiale, d'autant qu'il y a vraiment une actualité chargée et, disons, très visible autour de l'Arabie Saoudite sur la scène internationale depuis quelques mois et même quelques années. Mais puisque c'est la première fois qu'on parle vraiment directement de l'Arabie Saoudite dans le podcast, il faut peut-être commencer par remonter un peu aux sources historiques de la monarchie et même, disons, de l'état, de la puissance saoudienne, disons, d'une manière générale. D'autant que c'est une histoire qui n'est pas fermée dans le passé, c'est une histoire qui a des conséquences très concrètes politiquement jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, on ne va pas faire une histoire de la péninsule arabique depuis 15 siècles, même si ce serait très intéressant et utile. C'est pas vraiment notre propos dans le Collimateur. Mais je vais simplement commencer par rappeler que c'est évidemment la région qui est le cœur historique et originel de la prédication de Mohammed, de Mahomet, autour de la Mecque et de Médine, et le point de départ des conquêtes islamiques à partir du 7e siècle. Mais en fait, il faut peut-être préciser aussi que même si ce sont des lieux saints qui ont évidemment une importance pour les musulmans, c'est aussi une région qui est bon, globalement un désert, et qui donc n'est pas la plus centrale pour les diverses puissances musulmanes depuis le Haut Moyen-Âge, enfin depuis le 7e siècle, qui ont des capitales plus au nord, à Bagdad ou à Damas, et qui se trouvent donc un peu en marge des centres économiques et politiques. Donc ma question liminaire, en quelque sorte, pour entrer dans le sujet avec une base qui n'est pas trop lointaine, c'est à quel moment est-ce que la région commence à, disons, s'organiser politiquement et à devenir une entité quoi, autonome et unifiée, un peu plus que la marge lointaine sous le contrôle d'un calife qui est à plusieurs milliers de kilomètres.
Alors vous avez tout à fait raison, c'est vrai que la péninsule arabique est restée totalement en marge du monde arabe sur le plan politique et que les deux grandes capitales étaient Bagdad et Damas, hein, c'était les cœurs du monde arabe. Alors, la péninsule arabique devient vraiment, commence à devenir intéressante et commence à susciter un intérêt politique central assez tard, finalement, avec la conquête par Ibn Saoud de l'Arabie.
Donc ça, c'est le XVIIIe siècle.
C'est le XXe siècle.
Ah, oui,
le XVIIIe siècle, si vous voulez, c'est vrai que Ibn Saoud arrive, quand il commence ses conquêtes en 1902...
Les auditeurs me pardonnent cette méprise, oui. C'est qu'on va voir qu'il y a beaucoup de Saoud.
Oui,
c'est un peu le thème commun. Mais il y a déjà un Saoud au XVIIIe siècle absolument. Qui commence cette unification et qui est le lointain ancêtre du Saoud du XXe siècle.
Alors c'est la troisième étape étatique des Al-Saoud avec Ibn Saoud, c'est-à-dire l'étape moderne.
Disons un mot du XVIIIe siècle.
Un mot du XVIIIe siècle, puisqu'en 1744... est scellé le pacte saoudo-wahhabite. Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que le prédicateur Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui est d'une lignée de juges et qui est inspiré par l'école de jurisprudence islamique sunnite, le hanbalisme, va, à partir de cette école, qui est la première école de jurisprudence islamique sunnite, eh bien, prêcher et s'allier à un émir sédentaire tout près de la région de l'actuel Riyad, Draïa, qui est un petit district de Riyad aujourd'hui, avec l'émir Mohammed Ibn Saoud.
Mais alors précisons que c'est important parce que le noter que c'est sédentaire, parce qu'évidemment il y a des populations de bédouins dans l'Arabie, et il y a aussi des populations qui sont implantées autour des oasis.
Absolument.
Et donc c'est en quelque sorte l'alliance toujours élusive qu'il va devoir faire pour unifier cette péninsule arabique entre les bédouins et les sédentaires. Mmh. Mais donc c'est à ce moment-là, au XVIIIe siècle, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a cette alliance entre la dynastie qui est encore au pouvoir aujourd'hui, donc les Saouds, même si on va voir qu'il y a eu une interruption,
bien sûr.
Et une dimension religieuse, absolument. Donc du wahhabisme, qui est aussi encore la religion dominante aujourd'hui.
Vous avez raison, le point fondateur, c'est ce pacte scellé saoudo-wahhabite à la moitié du XVIIIe siècle, tout à fait. Bon, c'est pas encore un épicentre, etc. Le premier émir saoud, c'est une petite région, enfin le Najd, hein, central, plus un petit peu au nord à Ha'il, qu'il arrive à fédérer. Hein. On est très loin de l'unification du royaume tel qu'on le connaît dans ses frontières de 1932 avec Ibn Saoud et donc l'État moderne, la troisième étape de l'État al-Saoud, le royaume d'Arabie saoudite qui naît en septembre 1932.
Alors, précisons peut-être juste un tout petit peu sur le wahhabisme, parce que c'est un terme qu'on mobilise souvent, qui est souvent confondu, mêlé, mais pour des raisons qui ne sont pas absurdes, avec ce qu'on appelle le salafisme. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut donner une définition simple du wahhabisme et, enfin, j'imagine que ça va être compliqué, mais...
Alors, si vous voulez, le wahhabisme, d'abord, il est considéré par la plupart des musulmans comme une secte. Hein. Donc, le wahhabisme est une extension ultra-radicale et rigoriste du hanbalisme, cette école de jurisprudence, cette première école de jurisprudence islamique sunnite, qui est née en fait en Irak, hein, qui est née en Irak et qui a essaimé également en Syrie, mais qui a le plus évolué en Arabie Saoudite avec la variante wahhabite. Mais le wahhabisme, ça n'est pas une école religieuse, c'est une doctrine qui a été donc issu de la prédication de ce Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qui a, sur le plan social, été une doctrine beaucoup plus conservatrice que l'école hanbalite qui s'en tenait qu'au dogme. Alors que le wahhabisme, c'est religion et politique, avec cette fameuse alliance avec les Saouds.
Hein. Donc on mesure bien qu'en quelque sorte, c'est un pacte gagnant-gagnant dès le XVIIIe siècle, c'est-à-dire les Saouds appuient leur autorité sur la religion wahhabite et les wahhabites ont le levier politique des Saouds pour s'étendre. Et du coup, ça prend toute l'Arabie ou, où est-ce que s'arrête ce wahhabisme
de cette époque ? En fait, oui, ça prend toute l'Arabie dans le sens où ça devient la religion d'État, la religion officielle. Mais finalement, c'est pourquoi moi, je me porte en faux quand on dit le royaume wahhabite. C'est pas vrai. Parce que le wahhabisme, il est resté l'épicentre dans le nage de la région centrale et ultra-désertique de Riyad, le Qassim également, qui est une... C'est dommage que par le podcast, on n'a pas de carte de l'Arabie Saoudite. Mais c'est vraiment le centre, C'est le noyau central, alors qui s'étend quand même, le Qassim, le Ha'il un peu au nord. Disons que c'est la région du grand nage arabique, hein, avec Riyad comme épicentre, et puis un peu plus au nord, le Ha'il, le Qassim. Donc c'est ça le noyau dur du wahhabisme, sachant que le sud de l'Arabie est chafirite, une autre école de jurisprudence islamique, qui est d'ailleurs dominante en Égypte, hein. Et toute sur la côte, le Hijaz a eu bien sûr toutes les influences, puisque c'est le haut lieu du pèlerinage, etc. Donc il y a des tas d'influences. Et puis l'emprise des Ottomans a laissé une marque du hanafisme et également de l'école malikite. Donc c'est beaucoup plus varié que ce qu'on peut avoir comme une image ultra uniforme et qui a été véhiculée, bien sûr, par les al-Saouds jusqu'à présent.
Justement, vous avez fait référence au chapitre suivant, disons après ce moment, ce pacte fondateur, et puis qui a pris un peu le pouvoir pendant quelques décennies. Mais évidemment, l'épisode suivant, c'est l'épisode de domination ottomane. Alors à peu près à partir des années 1820, pendant à peu près un siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors, c'est intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on appréhende souvent à travers Laurence d'Arabie, qui est évidemment un très bon film, qui est tiré de l'ouvrage Les Sept Piliers de la Sagesse de Thierry Laurent. Mais c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une perception de... Alors, on va sauter un peu la période de la domination ottomane parce que de toute façon, il ne domine pas beaucoup.
Il faut la relativiser parce qu'en Arabie, honnêtement, c'est vraiment des incursions. Alors c'est vrai qu'il y a eu 1820, il y a eu Mohamed Ali qui était le gouverneur d'Égypte, mais sous autorité ottomane. Mais les Ottomans, ce sont surtout... implanté en marge de la, vraiment au front, aux confins, autour des routes bien sûr maritimes.
Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on voit assez bien dans Laurence d'Arabie. Je suis désolé, je vais y faire encore référence, mais parce que c'est vraiment une image de la révolte arabe contre le dominant turc, l'occupant turc, mais qui a au moins le mérite de bien montrer le grand acteur de la région dès la Première Guerre mondiale, et puis ça va continuer juste dans l'après-guerre, qui est de plus en plus la Grande-Bretagne, qui va appuyer ces révoltes arabes, qui va nouer des alliances. Donc dites-nous peut-être comment ça se met en place, pourquoi les Anglais arrivent là, et surtout comment ils vont, ou comment certains acteurs vont en tirer profit à la sortie de la guerre, avec progressivement la mise en place d'un véritable ensemble politique indépendant qui va devenir un État.
Alors justement, les Britanniques, eux aussi, s'implantent dans cette région via les routes maritimes, parce que eux, ce qui les motive, c'est la route des Indes, bien sûr. C'est pourquoi les Britanniques, ils vont aller sur le pourtour, ils vont occuper Aden, cette mer d'Arabie, ils vont s'implanter en Oman et ils vont s'implanter sur toute la côte du golfe Persique, dans toutes les petites principautés arabes, jusqu'au nord en Irak. Hein. Donc c'est le pourtour ils font des incursions dans le cœur de la péninsule, justement par défaut et pour contrecarrer la puissance ottomane. Et c'est comme ça qu'ils rentrent en contact avec les Al-Saoud. Hein. Et ils seront déterminants cependant parce que, par exemple, quand Ibn Saoud, dans sa conquête des territoires du royaume...
C'est pas le même Saoud, c'est le nouveau Saoud, donc celui qui va devenir le grand-père du royaume d'Arabie Saoudite.
Donc. Oui, donc le père fondateur, le Ibn Saoud, qui fait sa conquête territoriale entre 1902 et 1932, et qui crée et qui fonde le royaume d'Arabie Saoudite. Donc lui bénéficiera du soutien britannique de manière déterminante en 1915, parce que c'est là où, si vous voulez, les Britanniques parviendront à faire échouer aussi les Ottomans, et notamment Mohamed Ali. Et en 1930, les Britanniques, par des raids de la Royal Air Force, mettent fin à la guerre entre Ibn Saoud et ses fameux Ikhwans, les fameux Ikhwan zélés, ces troupes d'élite qui ont aidé Ibn Saoud à unifier les provinces du royaume d'Arabie Saoudite, mais qui, ont gardé, si vous voulez, à la lettre, la volonté de fonder un État islamique, c'est-à-dire sans les frontières que Ibn Saoud, lui, a reconnues. Parce qu'il a été en contact avec les Britanniques. Les Britanniques ont fait comprendre à Ibn Saoud qu'il fallait qu'il s'arrête à la frontière irakienne parce que les Britanniques, tout simplement, occupaient justement cette terre.
Alors, donc on comprend que c'est un mouvement qui enjambe la fin de la Première Guerre mondiale, qui est avec l'appui des Britanniques et aussi avec quelques rivalités, parce qu'on ne va pas entrer dans le détail, mais... Les Britanniques soutiennent aussi le shérif Hussein de la Mecque, qui est celui qu'on voit dans Lawrence d'Arabie, qui lui-même est en rivalité avec Ibn Saoud. Donc c'est très compliqué.
Oui, mais, c'est très conflictuel hein, comme relation aussi.
Voilà, mais souvenons-nous que les Britanniques appuient Saoud à des moments cruciaux.
Pour défaire les Ottomans.
Pour défaire les Ottomans, et puis ensuite pour lui permettre... de solidifier son pouvoir. Soit dit en passant, si les auditeurs veulent savoir à quoi ressemble Ibn Saoud, je le regardais sur Wikipédia, ça m'a complètement sauté aux yeux. Il a été complètement immortalisé par Hergé dans Tintin au pays de l'or noir. C'est tout à fait, enfin c'est une ressemblance tout à fait frappante. Mais on peut préciser que donc les Britanniques ont quand même une attitude relativement ambiguë par rapport à Ibn Saoud et que c'est une union, une alliance qui va se
défaut.
Oui, par défaut, et qui va se dénouer progressivement, donc à partir du moment où Saoud crée vraiment son État, son ensemble politique, au cours des années 30, et progressivement, il va se tourner vers un autre grand acteur qui va devenir encore le grand acteur, le grand allié jusqu'à aujourd'hui.
Alors effectivement, et là c'est Ibn Saoud, parce que en fait, tous les chers qui sont à la tête de leur principauté ont compris qu'ils pouvaient marchander ces fameuses concessions pétrolières, parce que là on arrive dans les années 1930.
Compris à ce moment-là.
Bah oui, parce que les Britanniques, la fameuse Compagnie des Indes, c'est elle qui découvre la plupart des grandes richesses pétrolières, d'abord en Irak, en Iran et à Bahreïn. Ce sont vraiment les trois premiers. Et donc, ils se disent que forcément, ce grand désert regorge de ressources pétrolières.
S'il y en a tout autour, il y en a probablement au
milieu
aussi.
Absolument. Et donc, en 1933, donc, Ibn Saoud, au lieu de concéder une concession pétrolière aux Britanniques, eh ben, il va la concéder à Socal, l'ancêtre d'Aramco, c'est-à-dire une compagnie pétrolière américaine. Et là, les Britanniques vont très très mal le prendre, puisqu'ils vont décider, en contrepartie, parce qu'il y a aussi, avec ces découvertes de pétrole, le gros problème qui émerge, c'est l'absence de tracés frontaliers dans cette région. Et on voit bien qu'Ibn Saoud et donc le royaume d'Arabie Saoudite, dès sa naissance, est hégémonique. Et alors les Britanniques, pour contrecarrer cette concession qu'a fait Ibn Saoud des Américains, eh bien ils vont décider d'un tracé frontalier entre les actuels Émirats Arabes Unis, Oman et l'Arabie Saoudite. Et ça, Ibn Saoud va totalement rejeter ce tracé frontalier, parce que Ibn Saoud a des prétentions, bien sûr, sur le fameux oasis de Bouraïmi, qui est frontalier entre les Émirats et Oman. Et là, il y aura une guerre aussi.
D'accord. Donc, on mesure, donc, à ce moment-là, les Britanniques mettent en quelque sorte une sorte de coup d'arrêt aux ambitions, disons, expansionnistes progressivement. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça renvoie aussi à la nature du territoire. C'est un désert, donc c'est des grandes étendues. Mm-hmm. On ne s'y déplace pas exactement comme on se déplace. C'est pas la frontière entre la France et l'Allemagne, quoi. C'est des grandes étendues, c'est des populations qui sont nomades traditionnellement, souvent. Donc, la simple idée de frontière tracée avec un crayon sur une carte, c'est pas forcément naturel par rapport à cet endroit.
Bien sûr, et puis c'est pas les frontières tribales. Hein, vous savez, les tribus, voilà, c'est pourquoi tous ces tracés au crayon, comme vous dites, sont extrêmement superficiels et ne correspondent à rien. Pas en tout cas à la réalité géopolitique et tribale de cette région.
Mais donc l'alliance avec les États-Unis. Alors c'est intéressant parce que on mesure bien que c'est vraiment à ce moment-là que en quelque sorte les ferments sont implantés. Mais il y a un épisode qu'on retient souvent pour matérialiser l'alliance entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. C'est l'épisode le pacte du Quincy en février 45. Le Quincy c'est un navire américain sur lequel est le président Roosevelt. Dans le canal de Suez, et où il rencontre le fameux Ibn Saoud, et où ça aurait été le moment où aurait été scellée cette alliance entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite qui dure jusqu'à aujourd'hui. Alors, par ailleurs, ça colle aussi.
C'est vrai qu'elle est formalisée à ce moment-là, mais l'acte fondateur, c'est la concession pétrolière par Ibn Saoud à la Sokal, en 1933.
C'est intéressant, parce que par ailleurs, ça colle assez bien avec le récit qu'on fait habituellement de cette période, début 1945, où on dit c'est le grand partage du monde, avec Yalta, on exagère aussi beaucoup l'importance de ce point de vue-là. Mais donc c'est l'idée qu'à ce moment-là, ce grand truc qui va être très structurant pendant toute la guerre froide et bien au-delà jusqu'à aujourd'hui, vraiment est matérialisé, c'est-à-dire avec la présence pétrolière des États-Unis à travers la Sokal puis Aramco, donc ces grandes entreprises pétrolières, et en échange de cette présence qui est autorisée, il y a une alliance stratégique et militaire qui protège
absolument
l'Arabie Saoudite.
C'est ça, c'est surtout cette alliance militaire qui se formalise à l'occasion de cette fameuse rencontre du 14 février 1945 entre le président Roosevelt et le roi Ibn Saoud. C'est vraiment ça qui se formalise à l'époque.
Et alors, comment ça va se concrétiser, en quelque sorte? C'est-à-dire, quels vont en être les contours concrets dans les années? Parce que ça, c'est 45. Bon, ensuite, il y a le début de la guerre froide. Il y a plein de problèmes, notamment liés à la question palestinienne à cette époque-là, puisque, évidemment, les États-Unis sont dans des alliances contradictoires entre les pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite et Israël. Donc, comment est-ce que ça va se... Comment elle va se matérialiser, disons, cette alliance?
Il faut savoir que donc Aramco est implanté, et c'est vraiment du management américain à 100%. Hein. Donc Aramco, c'est le proto-État saoudien, si vous voulez. Donc,
c'est-à-dire, dans un espace tribal, désertique, etc., c'est une grande compagnie américaine qui va fonder l'État.
Absolument. C'est vraiment l'embryon d'État saoudien. C'est dans tout ce qu'il a de moderne, de management, d'institutionnel et d'administratif, c'est Aramco. Hein. Et puis c'est le trésor de guerre du royaume d'Arabie Saoudite. Donc ça c'est fondamental, sachant qu'Aramco deviendra complètement saoudien en 1980. Donc pas nationalisé, mais les Saoudiens petit à petit vont racheter les parts et en faire leur compagnie pétrolière nationale.
Mais c'est intéressant parce que ça pose donc la question de dans quelle mesure c'est un projet politique saoudien, d'Ibn Saoud, et puis ensuite on reparlera de ses successeurs. Mais dans quelle mesure, c'est-à-dire, il se contente de capter la manne pétrolière qui va augmenter, et dans quelle mesure est-ce que il y a un projet politique d'unification, de constitution d'un État? C'est-à-dire, est-ce que l'État se fait en quelque sorte comme ça, parce qu'il y a Aramco qui structure le territoire? Ou est-ce qu'il y a un projet quand même volontaire?
Le véritable fondateur, parce qu'il a modernisé les institutions et qu'il les a en fait fondées, c'est le roi Faisal. Hein, c'est avec lui qu'apparaît véritablement une véritable bureaucratie et un embryon d'État. Hein, parce que
le roi Faisal, c'est le premier successeur.
Non, c'est le successeur immédiat du roi Saoud, c'est son fils Saoud, le fils aîné. Faisal étant le prince héritier. C'est le deuxième. Et c'est celui qui, d'ailleurs, renversera son frère en alliance avec, avec d'autres princes, parce que le premier fils d'Ibn Saoud, le roi Saoud, a voulu privilégier, si vous voulez, sa descendance au détriment de ses frères. Donc il a voulu faire, tout de suite après la mort de son père, fondateur du royaume, un coup d'État dans l'État.
Donc on va repréciser un petit peu la chronologie. Donc Saoud, le premier, donc Abdelaziz, donc Ibn Saoud, le fondateur.
1932-1953, date de sa mort. En 1953, son fils Saoud, comme il était, selon la volonté d'Ibn Saoud, lui succède. Mais le roi Ibn Saoud avait bien préconisé dans tous ses fils qu'il fallait, pour que son œuvre soit pérenne, qu'il règne de manière collégiale. Et que surtout, il ne fallait surtout pas qu'il se divise par des conflits de fratrie, etc. Parce que les deux premiers, surtout le deuxième État, Al-Saoud, a été traversé par une guerre civile et fratricide terrible. Et ça, il faut
donc
bien avoir...
Le deuxième État, Saoud, c'est au XIXe siècle.
Oui, c'est ça, fin XIXe siècle. Et il faut bien savoir que Ibn Saoud... Quand il a unifié son pays, il venait du Koweït, parce qu'il a dû s'exiler avec son papa d'abord au Qatar et ensuite au Koweït, où l'émir du Koweït les a hébergés. Et c'est depuis le Koweït, à partir de 1902, qu'Ibn Saoud va commencer l'unification de son royaume.
Il avait un très mauvais souvenir des dissensions possibles au sein de la famille Saoud.
Et de la possibilité de la fin rapide de l'État Al-Saoud, si jamais... ses fils n'étaient pas capables de s'entendre. Malheureusement, dès sa mort, il y a, peut-être pas immédiatement après sa mort, mais dès le début, il y a des dissensions entre Saoud Ier, donc celui qui succède à Ibn Saoud, et son frère Faisal.
Alors c'est très intéressant parce que ça nous permet d'entrer un peu dans le fonctionnement donc de la famille royale Al-Saoud, qui est... En fait, c'est amusant parce que je me disais, c'est vraiment très contre-intuitif quand on... Parce que souvent, l'image qu'on a de la royauté, elle vient un peu des royautés occidentales médiévales, c'est-à-dire on a toujours l'idée du modèle de base, c'est la primogéniture mâle, c'est-à-dire le fils aîné qui passe à son fils aîné si c'est possible,
c'est
etc.
C'est pas du tout le cas là-bas.
Or, voilà, c'est ce qui est le truc assez fascinant, c'est qu'au contraire, là, très clairement, il est posé dès le début que... C'est les frères, ça passe de frère en frère.
C'est le système adelphique, comme l'a très bien théorisé Nabil Mouline. C'est ce système adelphique qui va primer entre le règne du roi Faisal à partir de 1964 jusqu'au règne du roi Salman 2015.
Alors, on peut préciser, c'est plus facile quand Ibn Saoud a eu une cinquantaine de fils, je crois.
Oui, on dit 49, il est mort, il en a laissé 36 vivants.
Bon, donc ça fait un peu de vivier quand même pour renouveler, disons, le pouvoir, il y a de la main-d'œuvre, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc c'est l'idée qu'il faut qu'il gouverne de manière aussi collégiale que possible. Absolument. Pour éviter l'éclatement, et qu'ensuite le pouvoir passe de l'un à l'autre. Donc ça commence par Saoud Ier jusqu'en 1964, et puis à ce moment-là, on a bien compris.
Alors le fameux Saoud là veut privilégier sa descendance au détriment de ses frères, et c'est là où ça clash. Et en plus de ça, il est alcoolique, il gère très très mal.
Ce qui est un problème globalement dans un régime wahhabite d'être alcoolique.
Normalement, oui, ouais. C'est pas très indiqué.
Voilà.
Et puis surtout, il gère très très mal les affaires de l'État, avec beaucoup de gabegie, etc. Donc le roi Faisal se met d'accord avec ses autres frères et demi-frères pour évincer Saoud. Ce dont il parvient grâce à l'aide de ceux qui vont devenir les futurs rois et les futurs princes héritiers, à savoir Sultan.
Sultan, c'est son prénom, hein, c'est pas son titre.
Oui, Sultan bin Abdelaziz bin Saoud, qui a été pendant 50 ans un ministre de la Défense et qui deviendra à la fin de sa vie prince héritier, mais il va mourir. Ensuite, il va s'allier...
Mais ça, c'est fascinant. C'est-à-dire qu'il faut préciser qu'on en est toujours, à l'heure actuelle, au fils du Saoud unificateur.
Avec le roi Salman encore. Mais comme on va le voir, évidemment.
On va voir, ça va se compliquer.
Ça sera la chute.
Mais c'est intéressant. On est, depuis un demi-siècle, on est toujours à la même génération.
Et, absolument. Et la génération des fils.
Et ils se succèdent les uns aux autres.
Alors oui, ceux qui se succèdent, ce sont quand même les fils d'Ibn Saoud qui font partie des branches les plus puissantes. Et il y a une branche qui a été très très puissante, c'est celle des Soudayri, c'est-à-dire les sept fils de Hassa el-Soudayri, la petite préférée d'Ibn Saoud, qui lui a donné sept fils. Donc, la maman de plusieurs rois, du roi Fahd, qui est devenu roi en 1982 et qui est mort en 2005, du roi Salman, l'actuel roi Salman, du prince sultan, qui a été donc 50 ans ministre de la Défense et qui a été prince héritier, du prince Naïef, qui a été 45 ans ministre de l'Intérieur et également prince héritier, et puis de trois autres qui n'ont pas été princes, et d'un certain Ahmed, le frère cadet du roi Salman, qui a été sacrifié, mais qui avait encore une prétention au trône. Donc ce clan-là a été le plus puissant, puisqu'il a donné, si je me résume bien, trois rois.
Mais alors, on va passer évidemment ensuite au dernier chapitre, puisque c'est le chapitre important aujourd'hui politiquement dans l'Arabie Saoudite. Mm-hmm. Et simplement, peut-être, puisque là, on est quand même sauté à grands traits par-dessus, disons, une quarantaine d'années de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est-à-dire, on sait que le grand truc, c'est le pétrole, évidemment. C'est ça qui donne ses moyens à l'Arabie Saoudite. C'est ça qui justifie l'alliance avec les États-Unis. On sait aussi qu'il y a eu des flux et des reflux, en fonction évidemment des cours du pétrole. Mais c'est-à-dire, à quelle vitesse et quand est-ce que l'argent arrive directement ? C'est-à-dire à quel moment ?
Ce sont les années 70, le premier grand boom pétrolier. Parce qu'avant, effectivement, il y avait surtout l'argent du pèlerinage, hein, finalement. Hein. Et donc, l'argent du pétrole arrive finalement assez tard. Bon, bien
sûr, le fait qu'il y a évidemment les deux lieux saints, que sont Médine et la Mecque, qui sont des lieux de tourisme, littéralement, enfin de tourisme religieux important, et donc ça permet en prélevant des taxes, etc., enfin ça permet de faire rentrer
de l'argent. Ça a toujours,
l'argent.
Oui, depuis les années 1500, hein, ça a toujours été source de revenus principaux. Hein.
Mais, mais le pétrole vraiment arrive et rentre à partir des années 73, le premier choc pétrolier.
Oui, enfin bon, après la Deuxième Guerre mondiale, on commence quand même à exploiter le pétrole en Arabie, dans la région orientale, hein, mais le grand boom pétrolier, c'est les années 70, et c'est là, ça correspond aussi aux années du roi Faisal, où il modernise le royaume. C'est le premier qui doit affronter aussi l'establishment wahhabite, dans le sens où l'introduction de l'enseignement aux jeunes filles, la radio, etc., fait quand même autant sensation qu'a fait sensation MBS quand il a décidé de, bien sûr, un peu plus séculariser, si vous voulez, le royaume.
Mais alors, du coup, cet argent arrive en masse, invraisemblable, à partir des années 70.
Voilà.
Et du coup, qu'est-ce qu'ils en font précisément ? Donc, vous nous avez dit, Faisal modernise
L'administration, le pays, les provinces, les infrastructures, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Tout est créé à partir de ces années, hein, et avec, bien sûr, l'arrivée massive d'expatriés, notamment des pays arabes, Égypte, Palestine, Syrie, Jordanie.
Mais qui viennent quoi, comme main-d'œuvre ?
Bien sûr, oui, comme main-d'œuvre. Au tout début, c'est dans Aramco, mais très vite, Aramco aura même des ouvriers saoudiens. Et puis, dans l'administration, dans tout ce qui est infrastructure, etc., tout ce qui modernise et développe le royaume.
Thank you. Alors, on a compris que donc, c'est une évolution assez linéaire. Donc, à partir, il y a ce grand moment où on repasse à la succession adelphique, où les frères se succèdent les uns aux autres. Donc, à partir de 64, il y a l'arrivée du pétrole, enfin, de la manne du pétrole, à partir des années 70. Et puis, il y a cette grande entreprise sur le long terme de modernisation. Mm-hmm. Faut peut-être maintenant en venir à... Pas au dernier chapitre, mais si un peu, puisque c'était relativement peu mouvementé politiquement.
Oui, c'est vrai que ça s'est, je veux dire, poursuivi. Structurellement, rien n'a changé entre les années Faisal et l'arrivée de Salman, ça c'est clair. Hein.
Et donc ce dernier chapitre, c'est donc l'arrivée du roi Salman, donc à partir de 2015. Mmh. Alors il se passe des choses juste avant, on en reparlera après.
Oui, entre-temps, parce qu'il y a eu le roi Abdallah qui n'est pas un soudeiri. Hein. Il a fallu qu'il... Qu'il s'affirme par rapport à ce fameux clan Soudeiri, qui l'ont, enfin, c'est vrai qu'à posteriori on peut analyser ça comme ça, qui l'ont empêché de moderniser plus avant le royaume parce que Abdallah était un souverain assez, entre guillemets, progressiste. Alors bien sûr, toujours conservateur au sens saoudien du terme, mais où c'est lui qui a quand même amené le débat sur la femme dans la société. C'est un roi qui a été très populaire et très aimé en Arabie. Hein.
Donc Abdallah, c'est entre 2005 et 2015.
Exactement. Oui.
Et donc en 2015, il meurt. Et donc forcément, le trône repasse à un de ses frères, puisqu'il en reste.
Oui. Et le roi Salman était prince héritier, de toute façon. Donc
le roi Salman donc, a encore un clan Soudeiri, un membre du clan Soudeiri, qui est encore aujourd'hui à l'heure actuelle.
Qui est toujours le roi, absolument.
Mais ce qui est intéressant, c'est que donc là, il va y avoir l'innovation dont on a beaucoup parlé et qui dirige beaucoup de ce qui fait l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, qui est que, ben, forcément, ça allait forcément s'épuiser un jour, hein, les héritiers, enfin les fils directs d'Ibn Saoud, mais Salman fait le grand mouvement, le grand coup en 2017, qui est le passage à la génération suivante et donc à son fils, qui, logiquement, puisque c'est le sens du mot, s'appelle
vrai.
Mohamed Ben Salman, qu'on va appeler, je pense, souvent MBS, parce que c'est son surnom. Mais donc, c'est ce que va faire Salman, c'est il va faire le basculement à la nouvelle génération.
Alors, il le fait avant 2017. Hein. Il le fait, dans un premier temps, en avril 2015. C'est-à-dire que pendant 3 mois, le roi Salman va très bien se comporter. Il va suivre complètement ce qu'avait prévu son demi-frère décédé. Donc, je ne sais pas, le temps du deuil, eh bien, il respecte. Et il laisse en place le fameux vice-prince héritier qu'avait... c'était un statut qu'avait innové, finalement, Abdallah. Parce que, pour faire un dernier coup sous des grilles, parce qu'ils ont passé leur temps à batailler, hein, Abdallah avait mis dans sa poche... une décision inédite qui n'apparaissait pas dans l'amendement qu'il a imposé à la loi fondamentale qui a été établie en 1992 par le roi Fahd et où il change un peu le dispositif de la succession et il va comme ça décider de nommer en bis un vice-prince héritier. Le prince héritier étant Salman. Il va nommer le vice-prince héritier, le prince Moukrine, qui est le tout dernier des fils d'Ibn Saoud, mais d'un mariage, entre guillemets, pas très prestigieux, dans le sens où c'était une yéménite. Hein, c'était pas, donc il était de maman yéménite, et tout le monde pensait que c'était impensable que Moukrine devienne roi un jour, du fait justement, parce qu'on parle toujours de la descendance d'Ibn Saoud, mais les femmes d'Ibn Saoud ont tenu un rôle très important dans la sélection des futurs rois. Et donc ça a été le joker du roi Abdallah pour essayer de contrer les Soudeiri, parce qu'il était convaincu qu'il survivrait à Salman, parce que Salman est déjà un peu malade. Alors, on ne sait pas de quoi il est affecté, mais en tout cas, il avait mis dans cette disposition de la succession aussi un conseil médical afin que ce conseil médical puisse statuer de la capacité du roi Salman à régner. Et en fait, il n'y a pas eu ça. Abdallah est mort lui-même, donc, et donc Salman... lui succède tout naturellement. Et trois mois après, Salman décide eh bien, de tout simplement de se passer de Moukrine et va nommer à sa place Mohammed bin Nayef comme prince héritier, c'est-à-dire le très puissant ministre de l'Intérieur qui était lui-même le fils de l'ancien prince héritier et ministre de l'Intérieur, Naïef. Et lui, Mohamed bin Naïef, le fameux MBN, qui va être évincé par cette révolution de palais en juin 2017 à l'initiative du roi Salman et de son fameux fils MBS, c'est lui qui va être évincé. Alors qu'il est l'interface des Américains dans tout ce qui est renseignement, coopération antiterroriste, Al-Qaïda, etc. Et c'est quelqu'un d'extrêmement respecté en Arabie Saoudite et par les alliés occidentaux, notamment les États-Unis. Et la CIA n'a jamais digéré cette révolution de palais et le fait que MBS succède à Mohamed bin Naïef, qui rassurait les Américains en termes de lutte antiterroriste.
Alors, donc si on résume, c'est vraiment, on comprend à quel point c'est compliqué.
Oui, c'est compliqué.
Mais c'est... Donc Abdallah voulait le passer à Salman, mais il a décidé de bloquer Salman en lui imposant un prince héritier. Salman, quand il prend le pouvoir, vire ce prince héritier, mais décide d'en prendre un autre qui est son neveu et qui est donc quelqu'un que les Américains apprécient. Jusqu'au moment où, donc en 2017, il y a ce que vous avez appelé une révolution de palais, donc, c'est-à-dire que ce prince héritier, l'interface des Américains, l'homme du renseignement et l'interface avec les Occidentaux, est évincé au profit du...
Et puis celui qui avait maillé le territoire et qui avait évincé Al-Qaïda du royaume d'Arabie Saoudite. Alors certes, ils se sont réfugiés au Yémen, mais il a réussi la lutte contre Al-Qaïda. Donc c'est vraiment quelqu'un de très compétent, qui en plus de ça est quelqu'un d'assez posé et qui aurait pu assurer une transition beaucoup plus soft entre les anciens et la nouvelle génération des Saouds.
Oui, entre les fils de Saoud et la génération d'après.
Parce que lui, il est de la génération des petits-fils, mais c'était un aîné. Il a été évincé, il avait 57 ans. Il a été évincé pour un jeune trentenaire qui, lui, est totalement novice en politique.
Donc parlons-en, ça, c'est donc le fameux, très fameux MBS, donc Mohamed Ben Salman, le fils de Salman. Donc on voit que Salman, du coup, a quasiment rétabli la transmission linéaire de père en fils, ce que Saoud voulait absolument, Ibn Saoud voulait, son père voulait absolument éviter. Et donc il choisit ce MBS, c'est pas son seul fils, mais c'est...
Ah non, il en a 10, et c'est pas le fils le plus capé. En revanche, c'était le fils avec lequel il était le plus proche, et surtout celui qui a le même tempérament que Salman. Parce que Salman est parmi les princes al-Saoud de la première génération les plus autoritaires, les plus déterminés. Et il a vu en son fils quelqu'un de... Il ne s'est pas trompé en la matière. Quelqu'un de très ambitieux, de déterminé et qui avait la capacité, avec son charisme, son culot, de faire avancer le royaume et d'en faire une grande puissance du XXIe siècle.
Et
il en était convaincu.
Et juste, comment est-ce que c'est passé pour les autres branches?
Très mal. Mohamed Ben Salman est quelqu'un par le frère immédiat de Salman, qui pouvait encore prétendre au trône, à savoir le prince Ahmad.
Et comment est-ce que MBS, donc, en quelque sorte, impose sa marque? C'est-à-dire, comment est-ce qu'il différencie son règne, le règne aussi de la nouvelle génération, du coup, de celui de son père et de ses oncles? C'est-à-dire, comment est-ce que... Depuis donc 2017 et ce moment où il est affiché que c'est lui le prince héritier, qu'est-ce qui a changé?
Je vais faire une petite digression et là je conseillerais aux auditeurs du podcast de lire l'étude qui va paraître à l'IRSEM et que j'ai écrite et qui paraît à la fin du mois de mars sur le pari de MBS, le pari de la, sur la jeunesse d'MBS, parce qu'il va véritablement innover une sorte de nouveau modèle de légitimation. Il va être contesté par ses pairs, c'est clair. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il va décider d'une gouvernance ultra-radicale et très dure, où il va évincer, entre guillemets, ce que j'appelle entre guillemets l'ancien régime. Tous les princes qui comptaient, ils seront, souvenez-vous, cette fameuse purge du Ritz-Carlton en novembre 2017.
Donc expliquez-nous, donc quelques mois après son...
Alors quelques mois après sa désignation comme prince héritier, alors évidemment personne n'ose contester ouvertement, à part trois membres de la famille royale, la décision du roi Salman. Et celui, donc, ceux qui vont la contester, c'est son frère cadet Ahmed, qui revendiquait donc la succession, également Mithab bin Abdallah, le fils du roi Abdallah, qui était le ministre de la garde nationale, et un troisième qui est Talal, qui est le prince Talal, le papa du fameux Walid ben Talal, mais qui est un prince assez, entre guillemets, progressiste. On l'appelait le prince rouge dans les années 50, et qui était un petit, qui comptait pas tellement dans les princes qui comptent, mais quand même, qui faisait partie quand même des princes qui pouvaient prétendre à la succession. Donc, en dehors de ces trois voix discordantes, qui ne vont pas vouloir reconnaître et prêter allégeance au prince héritier, tout le monde, évidemment, accepte la décision du roi, parce que le roi Salman est quelqu'un d'extrêmement légitime au sein de la famille royale, mais aussi au sein de l'establishment religieux. Donc, il a une double légitimité. Et tant qu'il est vivant, c'est vrai que c'est quand même la garantie de sécurité de son fils. Hein. Alors depuis, bien sûr, bin Salman, Mohammed, a, comme je le disais, décidé d'une gouvernance très radicale pour soit ringardiser l'establishment religieux, en les marginalisant, notamment en ce qui concerne le contrôle social. Il a décidé que la police religieuse, les fameux Moutawar, la Hizba, eh bien, n'aurait plus le droit d'interpeller les Saoudiennes et les Saoudiens sur leur tenue vestimentaire ou contrôler strictement la mixité, enfin, tous les fameux préceptes wahhabites. Ça, il marginalise. Et surtout, il va, au nom d'une lutte anticorruption, systématiquement marginaliser les princes qui comptent. C'est-à-dire Mithab, celui qui avait contesté, Ahmed, bien sûr, qui est aujourd'hui en prison, et ne parlons pas de MBN, hein, Mohamed bin Nayef, qui lui a été évincé, qui a été en résidence surveillée jusqu'en mars 2017, et qui est jusqu'en mars 2020, pardon, et depuis mars 2020, il y a la pandémie a servi aussi à MBS à redoutablement verrouiller, parce que là, on assiste à des arrestations dans toute la haute bureaucratie, ministère de l'Intérieur, de la Défense, et tous les postes qui comptent, et tout cela au nom d'une lutte anticorruption, mais en fait, c'est pour mettre au silence toute voix discordante et tous ceux qui contestent sa façon de faire. Donc on est véritablement devant un vrai pouvoir despotique auquel on n'a jamais eu affaire en Arabie Saoudite jusqu'à présent.
Mais alors, donc... Ça va nous permettre d'élargir un peu l'angle de vue et de passer à des considérations peut-être plus régionales et plus diplomatiques et plus stratégiques.
Oui, non, juste, je disais aussi qu'il avait fait le pari de la jeunesse. À côté de cette gestion très radicale, il en profite pour promouvoir son message de modernité sociale, vous savez, de toute cette politique des divertissements, et envers la jeunesse qui véritablement l'adore et qui adhère à cette nouvelle vie qui est beaucoup plus détendue et qui correspond beaucoup plus à l'âge moyen des Saoudiens, qui est de 27 ans dans le royaume. Alors, ça ne veut pas dire que tous les jeunes, évidemment, ne sont pas conscients du verrouillage extrême qu'il y a, mais voilà, égoïstement, ils pensent que s'ils ne font pas de politique et qu'ils ne prennent pas, ils peuvent être parfaitement heureux dans ce royaume que leur propose Mohammed bin Salman, à condition bien sûr qu'ils puissent prospérer et avoir du travail, parce que ça sera ça l'enjeu futur de MBS. Il devra être comptable devant tous ces jeunes saoudiens et pas sa famille du coup.
Alors ça, c'est l'équilibre des pouvoirs en quelque sorte interne. On a bien compris que c'était déterminé, surdéterminé par des considérations dynastiques, politiques, de politiques vraiment très internes, à l'interface aussi évidemment avec le religieux. Il y a aussi une question de puissance externe et de la manière dont tout ça se ressent en quelque sorte sur la place de l'Arabie Saoudite dans la péninsule arabique et au-delà. Pour ça, il faut peut-être revenir un peu en arrière. Alors évidemment, il y a toujours beaucoup de chapitres. On pourrait parler pourrait remonter en 1979, on pourrait remonter en 2001, on pourrait remonter en 2003 avec l'invasion de l'Irak. Évidemment, ce sont autant de chapitres, mais autant de chapitres où, au demeurant, l'Arabie Saoudite s'est affirmée plutôt comme un bon allié des États-Unis, où ils ont appuyé les Américains. Donc il va falloir remonter un peu en arrière, et peut-être pour envisager, disons, la place, les ambitions et les dynamiques de l'Arabie Saoudite dans la région, peut-être un point d'entrée intéressant, ce serait de parler, d'envisager, disons, les puissances concurrentes ou rivales, dans une certaine mesure, parce que ça va permettre de dresser un peu le tableau et ça va permettre de voir où MBS et l'Arabie Saoudite de MBS se placent par rapport à ça. Il faut là sans doute commencer par le grand acteur qu'on présente souvent un peu comme l'envers de Riyad et de l'Arabie Saoudite, un peu le némésis en quelque sorte de la puissance saoudienne, qui est l'Iran, qui est évidemment aussi un très gros producteur de pétrole, qui se trouve par ailleurs être une puissance chiite, et présente toujours comme l'immense rival stratégique dans la région de l'Arabie Saoudite. Donc peut-être la première question, c'est d'où est-ce que ça vient, cette rivalité? Est-ce que c'est la révolution iranienne en 79, ou est-ce que c'était déjà avant? Et est-ce que c'est religieux même? Ou est-ce que c'est plus banalement stratégique entre deux superpuissances de la région?
Alors c'est un peu tout ça. C'est clair que 1979, c'est la date rupture, parce qu'avant, sous le Shah d'Iran, bon, l'Iran était un peu le gendarme régional, et les relations étaient excellentes avec Riyad. Hein. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on a affaire à un Iran chiite que forcément, fatalement, les deux grands morceaux régionaux que sont l'Arabie Saoudite et l'Iran sont incapables de s'entendre. Hein. Donc la preuve, puisque les choses se passaient très bien jusque-là. Il est clair que la révolution islamique est un vrai trauma pour les Saoudiens, dans le sens où, d'abord, c'est une révolution islamique qui est conduite donc par un pays qui n'a pas du tout effectivement la même conception de l'islam, donc chiite, et surtout une révolution par une république, hein, sachant que voilà, le royaume est un pays extrêmement conservateur, voire réactionnaire, et donc toute révolution le panique. Hein. Et donc ce prosélytisme iranien de vouloir exporter sa révolution islamique, puisque les Iraniens ne parlent pas de répandre le chiisme, mais une révolution islamique a vocation universelle. Donc évidemment, alors ça c'est le premier point de blocage pour l'Iran, puisque très vite ils vont se rendre compte que la portée universelle de leur révolution est impossible, dans la mesure où c'est un État chiite. Et donc ça, les Saoudiens vont bien sûr se servir de ça pour évidemment répondre par un autre prosélytisme qui sera celui des Wahhabites et qui va être mise en forme surtout sous le roi Fahd, puisque ça correspond à son arrivée au pouvoir en 82 et puis ça correspond aussi entre-temps au déclenchement de la guerre entre l'Irak et l'Iran. Et en 81, la création du Conseil de coopération du Golfe, donc qui réunit toutes les monarchies du Golfe, pour essayer de faire front à l'Iran et à l'exportation de sa révolution. Donc c'est clair que le point fondateur de cette rivalité, c'est la révolution islamique de 1979. Cette rivalité qui va opposer le royaume conservateur d'Arabie Saoudite et son prosélytisme ultra-conservateur wahhabite. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que 79...
À la puissance qui est certes très conservatrice, mais qui est révolutionnaire aussi d'Iran, donc c'est en quelque sorte...
C'est ce double ancrage là qui fait que... Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est en 79 aussi, les Soviétiques envahissent l'Afghanistan. Et là, les Américains vont se servir aussi du prosélytisme wahhabite en Afghanistan pour et également entraîner les moudjahidines contre la puissance soviétique. Il y a toutes ces circonstances qui font que il y a des faisceaux de coopération aussi entre l'Arabie Saoudite et l'Occident, et pas simplement les États-Unis, qui vont aussi s'opposer à la révolution islamique d'Iran, en aidant également Saddam Hussein dans sa guerre contre l'Iran. Donc il ne faut pas oublier qu'on est aussi complètement dans ce contexte-là, où les Saoudiens, finalement, c'est un peu le cœur de cette coopération occidentale et anti-iranienne et anti-soviétique, où on est en pleine guerre froide aussi.
De là vient évidemment aussi les ferments du djihadisme.
Absolument.
Et disons des liens entre le royaume saoudien et le djihadisme, dont il faudra reparler dans un instant. Bon, mais alors, ça c'est l'Iran, c'est vraiment la grande tension régionale, on l'aura compris. Un deuxième grand adversaire de l'Arabie saoudite dans la région, qui est peut-être moins évident ou moins intuitif, et dont il faut dire un mot, ce sont les frères musulmans. Alors, déjà, pourquoi ? Parce que, c'est-à-dire, cette fois, c'est deux puissances qui sont sunnites, qu'on pourrait penser compatibles.
Je ne sais pas si on peut parler de puissance en parlant de frères musulmans. Bon, c'est un courant, hein, c'est un courant transnational, et c'est une idéologie.
Mais ce sont des acteurs et c'est une influence qui peut entrer frontalement en rivalité avec celle de l'Arabie
saoudite. Oui, mais ça l'est devenu assez tardivement, parce que il ne faut pas oublier que l'Arabie saoudite, quand elle se modernise, comme on disait tout à l'heure dans les années 70, l'arrivage massif d'Égyptiens, notamment qui fuit aussi le régime de Nasser, le régime très, très socialiste, nationaliste arabe, et qui fait la chasse aux sorcières, aux frères musulmans, et ben ces frères musulmans vont arriver en masse dans le Golfe dans les années 60-70. Et c'est eux qui vont constituer l'épine dorsale de l'éducation, du système d'éducation dans ces États du Golfe. Arabie Saoudite, Koweït, Émirats Arabes Unis et Qatar. Hein, mais le gros, évidemment, c'est en Arabie qui intervient. Et donc, et c'est aussi à un moment où le roi Faisal est en opposition frontale avec son vrai ennemi régional à l'époque, qui est Nasser, bien avant l'arrivée de l'Iran en 79. Hein. Dans les années 60-70, le grand ennemi de l'Arabie saoudite, c'est Nasser et son idéologie socialiste. Et donc, il récupère donc ses frères musulmans qui sont dans l'enseignement et qui vont éduquer auprès de deux générations de Saoudiens, qui sont eux, évidemment, éduqués et alimentés au wahhabisme, mais qui vont recevoir un enseignement de la part de ces enseignants qui sont issus des frères musulmans. Donc ça va créer une hybridation qu'a très bien expliqué Stéphane Lacroix dans son livre « Les islamistes saoudiens » qui est paru aux éditions PUF en 2011, et où il explique très bien comment cette hybridation va former une future élite de clercs saoudiens qui vont venir en opposition au message très légaliste et loyaliste de l'establishment religieux wahhabite par rapport au Al-Saoud. Et le grand trauma, et ce qui va constituer, si vous voulez, cet éveil islamique en Arabie saoudite, c'est l'arrivée des GIs américains pour libérer le Koweït lors de la guerre du Golfe de 1991, et qui vont rester sur le territoire saoudien jusqu'en 2002. Et donc, cette nouvelle génération d'intellectuels islamistes saoudiens va s'opposer à ce pacte saoudo-wahhabite en disant mais cet establishment wahhabite s'en tient qu'au dogme, il obéit bêtement et docilement au Al-Saoud qui ont accepté de faire intervenir les Américains sur le sol sacré d'Arabie saoudite. Et c'est là où va émerger justement cette scission entre ces sahouistes, donc cette hybridation de wahhabito frères musulmans, salafito frères musulmans, et une tendance plus radicale qui va être Al-Qaïda et donc la fameuse mouvance de Oussama Ben Laden.
Oui, c'est ça. Bah, c'est peut-être le moment d'en dire un mot, puisqu'on sait que dans ces années-là, c'est donc le moment commencent les attentats d'Al-Qaïda, notamment contre la présence américaine sur la péninsule arabique. Mais bon, c'est le moment de dire un mot sur les liens qu'on suppose, qu'on dit souvent en filigrane, entre l'establishment saoudien, qui est très très large, et ça représente beaucoup de gens et beaucoup d'acteurs différents, donc c'est difficile, c'est évidemment pas monobloc. Mais de ce point de vue-là, il est vrai que la figure de Ben Laden est embêtante pour les Saoudiens, parce que Ben Laden fait partie de la famille Ben Laden, qui est une famille très importante en Arabie Saoudite, qui n'a rien à voir avec la famille royale, mais qui est une très grosse entreprise de BTP, qui a notamment contribué à refaire les villes saintes de la Mecque et de Médine. Donc, en quelque sorte...
Ben Laden, c'est une famille yéménite qui vient du Hadramout. Et le grand-père, Salah, était un maçon, un architecte, et c'est lui qui a construit la plupart des palais des Al-Saoud, et il était très proche d'Ibn Saoud.
Hein. Mais donc la figure de Ben Laden est problématique de ce point de vue-là pour les Saoudiens. Mm-hmm. Donc si on devait résumer, ou en quelque sorte, comment est-ce qu'on pourrait caractériser, disons, ces liens?
Il a été déchu de la nationalité saoudienne.
Non, mais sans même parler de Ben Laden, mais d'une manière générale, entre Al-Qaïda et, disons, l'establishment saoudien au sens large.
Cette frange radicale, comme je le disais, s'est portée en faux et par rapport à cet establishment wahhabite qui a tendance à être très docile et à faire des fatwas pour défendre justement l'idée de faire intervenir les Américains sur le sol saoudien. Donc l'establishment wahhabite et Al-Qaïda, si c'est la même matrice idéologique, n'ont rien à voir, puisque Al-Qaïda, c'est révolutionnaire, ils veulent s'en prendre à cet establishment, et surtout au Al-Saoud, qu'ils considèrent comme de mauvais musulmans. Donc ce sont les ennemis. Hein, même si la matrice idéologique était effectivement la doctrine ultra-conservatrice wahhabite. Il n'empêche que les uns sont assez piétistes et dociles et donc acceptent l'autorité des Al-Saoud, fussent-elles ne pas très être bien dans l'islam puritain, etc. Peu importe, l'essentiel, c'est d'avoir une autorité. Ça, c'est vraiment... La doctrine des wahhabites piétistes de l'establishment religieux. Ceux qui se portent en faux, c'est ceux qui ont été en contact avec les frères musulmans qui, eux, veulent effectivement établir un État islamique, mais de façon vraiment politico-religieuse, alors que l'establishment wahhabite se contente de... régir et de contrôler l'islam tel qu'il est régi dans la société et de ne pas se mêler de politique.
Mais est-ce que c'est unifié ou est-ce qu'il y a aussi peut-être des membres, si c'est de la famille royale, en tout cas des grandes familles? C'est-à-dire, on a souvent dit qu'une certaine partie du financement d'Al-Qaïda venait aussi d'Arabie Saoudite, si ce n'est de la famille royale, mais en tout cas de membres qui tiraient de leur argent de la manne pétrolière et qui repartaient. Quoi.
Eh bien, comme dans les autres pays du Golfe, le Koweït aussi, c'est un pays où il y a eu un certain nombre de membres des oligarchies marchandes et de riches bédouins issus de tribus qui ont financé, bien sûr, Al-Qaïda. C'est pareil en Arabie Saoudite. Ça ne veut pas dire que l'État en tant que tel, l'institution de la famille royale et l'institution de l'establishment religieux wahhabite était derrière ces financements. Donc il faut bien... les amalgames sont faciles. Donc c'est vrai qu'on dit souvent, j'ai souvent entendu dire, l'État al-Saoud, c'est finalement celui qui a réussi Daesh. Mais ça n'a rien à voir. Parce que
la pratique du pouvoir saoud, il y a un truc assez sage et assez limité dans une certaine mesure de consolider son pouvoir un territoire.
Ils sont très politiques. Hein,
et de ne pas se laisser emporter dans des menées révolutionnaires, disons, alors, au-delà de leurs frontières.
En tout cas, sur le plan, au sein de leur territoire, c'est clair. C'est en dehors de leur territoire que, justement, l'État al-Saoud s'est prêté à des accusations parce que, évidemment, le soft power religieux saoudien, grâce au pétrodollar, de répandre la doxa wahhabite, eh bien, c'est vrai que, comme je le disais, le wahhabisme, c'est vraiment très, très minoritaire en islam sunnite, puisque le berceau, c'est vraiment le nage de désertique de l'Arabie. Eh bien, grâce au pétrodollar, il s'est répandu partout, en Asie, en Europe, en Afrique, partout dans le monde arabe, grâce au pétrodollar. Et ça a été à mon avis, enfin entre guillemets, mais quand même, la plus grande réussite en termes de soft power par les Al-Saoud. Hein, que ce soit une réussite qui a apporté de la nuisance ou pas. Il n'empêche qu'ils ont réussi quelque chose de spectaculaire, de faire de ce micro-territoire wahhabite, eh bien, répandre cette idéologie partout. Et effectivement, le courant salafiste, pour certains, s'inspire aussi de cela. D'où cette confusion de dire, effectivement... en dehors du territoire al-Saoud, les Saoudiens, bien sûr, ont fait en sorte de faire du wahhabisme et de faire de leur pays, de ce point de vue-là, une puissance. Et ça a été extrêmement important.
Mais donc le wahhabisme, qui n'est pas la même chose, et qui est même relativement en opposition en termes d'influence religieuse avec ce que prônent plutôt les frères musulmans, et ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène vers un autre chapitre important de ces dernières années, de la place de l'Arabie saoudite dans la région, qui est les printemps arabes, donc à partir de 2011. Et là, ce qu'on voit... donc évidemment des révoltes, certaines avec grande composante laïque, certaines plus religieuses, c'est variable selon les endroits et selon les moments. Mais là, ce qu'on voit, c'est l'Arabie saoudite qui intervient très rapidement, à grands coups de dollars, et pas que d'ailleurs, dans tous les régimes de la région qui sont susceptibles d'être déstabilisés. Alors après l'Égypte, parce que c'est la chute de Moubarak qui est à plein d'égards le grand... de déclenchement, enfin
c'est le déclencheur, c'est un trauma. Le roi Abdallah à cette époque, il revient de ses vacances au Maroc, il revient précipitamment et décide de verser le budget qui était alloué à l'Arabie Saoudite en 2011, le double pour justement rehausser les salaires des fonctionnaires et donc acheter le silence de la population, tellement il a peur de la contagion justement, parce que quand l'Égypte bascule, c'est pas quand la Tunisie bascule que les Saoudiens prennent peur, c'est quand l'Égypte, qui est l'épine dorsale du monde arabe, bascule et devient... et élit un président frère musulman. Alors ça, c'est vraiment le grand trauma. Et que... En 2012. Mais en 2011, c'est la chute de Moubarak et les Saoudiens vont interpréter ça comme l'abandon par l'Amérique d'un des premiers alliés, d'un des plus importants alliés des États-Unis, à savoir Moubarak depuis 30 ans. Donc pour eux, Abdallah...
C'est-à-dire les États-Unis d'Obama acceptent le fait que Moubarak tombe et que les frères musulmans...
Obama a une lecture plutôt sympathique des printemps arabes, puisqu'il dit que c'est peut-être enfin un vent de changement qui va apporter une alternative à des autocrates qui se sont coupés de leur population et qui ont très mal géré et de manière très corrompue leurs États. Donc Obama, souvenons-nous de son discours du Caire, se satisfait très bien de cette situation. Et ça traumatise tout, pas simplement l'Arabie Saoudite, tous les autocrates du Golfe.
Si on lâche si facilement Moubarak,
le prochain, c'est nous. Ouais. Et Abdallah, c'est exactement ce qui s'est dit. Donc déjà sous Abdallah que l'Arabie Saoudite inaugure sa politique interventionniste. Par exemple, en intervenant directement à Bahreïn, puisque Bahreïn, c'est cette monarchie qui est issue du Conseil de coopération du Golfe et qui est majoritairement peuplée de chiites. Et il y a un soulèvement populaire massif à Bahreïn, à Manama, en février 2011, sur la place de la Perle, et qui fait craindre à toute la région, et notamment aux Saoudiens, le basculement de la monarchie sunnite bahreïnie par ce soulèvement majoritairement chiite, même si ce n'est pas un mouvement qui se prétend comme sectaire, puisqu'il y a également un certain nombre de sunnites. Mais c'est vrai que, comme la majorité de la population est chiite, et que les chiites se sentent lésés et discriminés socialement, eh bien, il y a ce soulèvement. Et donc, Abdallah, en coopération en particulier avec les Émirats Arabes Unis et l'ensemble du CCG qui accède à la volonté de l'Arabie et des Émirats d'intervenir à Bahreïn, à la demande du roi de Bahreïn, interviennent en mars 2011 pour mater le soulèvement.
يا محمد بو يا محمد جتي ليش تتعمر يا محمد بو يا محمد جتي ليش تتعمر يا محمد خاف من الله يا محمد مهاد الله يا محمد خاف من الله يا محمد مهاد الله عيوني محمد قلبي
Ouais, mais alors, là où c'est, donc, ils interviennent à Bahreïn, ils influencent, ils financent un certain nombre d'endroits, pour, enfin, ils essayent de maintenir, disons, les régimes autour d'eux, à grand coup d'alarme. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça va les emmener, donc, dans tout un tas de conflits internes dans la région. Et, alors, c'est notamment le cas en Syrie, où cette fois, en Syrie, ce qui est intéressant, c'est qu'ils soutiennent l'opposition, parce qu'il y a une opposition traditionnelle avec les Al-Assad, mais aussi au Yémen, où ils soutiennent cette fois le régime, et qui est, on sait, la grande plaie en ce moment du régime saoudien, c'est cette guerre au Yémen qui est décidée à ce moment-là et qui n'en finit pas encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, en quelque sorte, on perçoit les raisons pour lesquelles ils y vont, c'est toujours la même chose, c'est maintenir un régime, éviter la contagion des révolutions dans la région.
En 2015, ils interviennent parce qu'il ne faut pas oublier que les Houthis ont pris la capitale Sana'a.
Les Houthis, c'est les rebelles. Houthis,
les rebelles Houthis, qui se dénomment aussi Ansar Allah, c'est le nom du parti politique, et donc ils prennent la ville de Sana'a, donc le centre du pouvoir, donc le président Hadi de transition qui a succédé à Ali Abdallah Saleh est obligé de partir pour Aden, et puis ensuite il se dirige vers Aden, et là pour le coup il est obligé de s'exiler en Arabie Saoudite, et en mars 2015, donc deux mois et demi après l'arrivée du roi Salman, les Saoudiens forment une coalition arabe sunnite et déclarent la guerre le 26 mars 2015, donc il y a presque 7 ans jour pour jour, au Yémen.
Mais alors comment ils s'en sortent ? Quelle forme ça prend ?
Mal.
Mais non, mais alors c'est ça ma question en fait. C'est sans vouloir être désobligeant, comment c'est possible concrètement ? C'est-à-dire, c'est les premiers importateurs d'armes au monde depuis des décennies. On en parlait il y a quelques semaines avec Emma Soubrier. Par ailleurs, on ne peut pas dire qu'ils s'encombrent de beaucoup de scrupules, si on croit un certain nombre de rapports d'ONG sur les formes de cette guerre au Yémen. Donc, en quelque sorte, comment c'est possible qu'ils soient tenus en échec avec toutes leurs armes, tous leurs moyens, leur manne pétrolière à peu près infinie et un soutien aussi plus ou moins direct des États-Unis? Comment c'est possible qu'ils se fassent coincer dans une guerre au Yémen?
Parce que, à la lumière de ce qu'ont fait les États-Unis en Afghanistan, une guerre dans des montagnes au Yémen ne se gagne pas par des frappes aériennes. Et que les Saoudiens n'ont pas mis de troupes au sol. Hein? Alors, n'ont pas mis de troupes au sol, ça c'était... MBS aurait rêvé d'envahir et d'envoyer des troupes au sol. Il faut savoir que MBS, quand il déclare la guerre au Yémen, avec bien sûr l'assentiment de son père, hein, il ne le fait pas tout seul, eh bien, il est ministre de la Défense, mais il n'a aucune culture militaire, contrairement à son fameux mentor et allié, Mohamed Ben Zayed des Émirats Arabes Unis, qui lui est un général qui a fait la grande école militaire de Sandhurst en Grande-Bretagne, et qui a construit l'armée émiratie, et qui a donc une vraie culture politique militaire. MBS, rien du tout. Hein. Il a déclaré cette guerre contre l'avis de Mohamed Ben Nayef, qui était encore à l'époque prince héritier. N'oubliez pas.
Tout ça, c'est avant 2015. Tout ça, c'est avant la Révolution de Palès. C'est alors que Salman vient juste de monter sur le trône. Donc c'est.
Alors pourquoi est-ce que Salman la question, c'est pourquoi Salman accepte d'écouter son fils qui est un junior et donc il le sait, il est novice, puis c'est lui qui l'a mis au ministère de la Défense, mais son fils n'est pas militaire, n'a jamais fait de carrière militaire, et qu'il n'écoute pas son neveu, qui certes n'est pas militaire, mais qui est à la tête du ministère de l'Intérieur et de toute l'armée contre-terroriste du royaume. Et qui, lui, s'oppose à... C'est pas qu'il s'oppose à déclencher la guerre, c'est qu'il dit qu'il faut prendre notre temps et il faut en parler avec les Américains. Parce qu'il faut pas oublier que cette guerre a été déclarée un peu contre l'avis d'Obama. Hein, que Obama a été obligé de suivre... il a été mis devant le fait accompli. Alors que Mohamed Ben Nayef disait il faut absolument en discuter avec notre allié américain et faire des plans et y aller. C'est pas qu'il était contre, mais prendre son temps et... Alors que le roi Salman, s'il a accédé à la demande précipitée de son fils de déclarer la guerre, c'est parce qu'il était traumatisé par le fait que les Houthis constituent la cinquième colonne à la solde de l'Iran. La grande peur,
les
Houthis, panique...
Les Houthis, on va rappeler, donc, ce sont les rebelles chiites au Yémen.
Oui, zaïdites, comme Ali Abdallah Saleh est également zaïdite. Mais les Houthis sont en guerre avec le pouvoir central yéménite depuis 2004. Et donc, ils ont eu une influence extrêmement importante pendant toute cette... entre 2004 et 2010. Et ils arrivent, donc, au moment de la révolution, le printemps yéménite en 2011... avec des revendications des jeunes étudiants yéménites qui sont très populaires à l'époque. Hein. Et c'est vrai qu'à l'époque, on ne pouvait pas les soupçonner d'être à la solde de l'Iran, ce qui, 7 ans après, n'est plus du tout le cas. Hein. L'Iran a acquis une influence très très importante auprès des Houthis. Ça, on a tendance à le nier, même si au départ, ce n'était pas le cas, c'est devenu quand même une prophétie autoréalisatrice. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi les Saoudiens, ils sont enferrés dans un bourbier.
C'est ça qui était inquiétant, oui, dans une certaine mesure, c'est que donc, le Yémen, avec lequel, évidemment, l'Arabie Saoudite partage une frontière.
Plus de 1200 km de frontière terrestre.
Ils sont donc juste à côté. Ils ont, c'est donc, il y a une révolte, il y avait, enfin, c'est donc des forces chiites qui sont révoltées, etc., qui mènent une guérilla.
Alors il faut faire attention, parce que c'est un chiisme, c'est pas du tout le même chiisme que le chiisme iranien, c'est-à-dire le chiisme imamite du haut des cimas. Le zaïdisme est très proche du sunnisme, hein, ouais, très proche. Oui, mais c'est pas le vecteur qui est déterminant là-dessus.
L'idée, c'est qu'au sein de la péninsule arabique, c'est dangereux d'avoir ça juste à côté.
Ah oui, les Saouds, ils disent que c'est un Hezbollah en formation à notre frontière. Mais c'est comme ça qu'ils le vivent. Hein. Je pense pas qu'ils s'inventent un scénario. Ils le vivent comme ça. Et aujourd'hui, la plupart des Saoudiens considèrent que oui, c'est l'Iran qui est à la frontière de l'Arabie Saoudite. Et parce qu'aujourd'hui, tous les jours, il y a des attaques de missiles et de drones armés sur le territoire saoudien par les Houthis. Donc, alors qu'avant 2015, le territoire saoudien était épargné. Donc, vous disiez, c'est incroyable d'imaginer cette grande puissance suréquipée, surarmée, s'embourber comme elle le fait. Et puis, on arrive à la situation absurde où la situation sécuritaire du royaume est infiniment plus dangereuse 7 ans après le début de la guerre qu'avant. Donc c'est incompréhensible. Il faut savoir que l'État saoudien ne s'est pas formé comme l'Irak ou l'Égypte au travers d'une armée extrêmement solide. Au contraire, vous avez plusieurs armées au sein de l'Arabie saoudite. Vous avez l'armée régulière, qui est visiblement mal formée, suréquipée mais mal formée, mal entraînée. Et vous avez la garde nationale, qui est cette garde tribale prétorienne, qui au départ avait pour mission de veiller sur les sites stratégiques et de veiller aussi à la famille royale. Et vous avez quasi une armée au sein du ministère de l'Intérieur qui était faite de ces effectifs contre-terroristes. Donc vous avez des forces pluriformes, justement parce que les Al-Saoud se jaugent les uns les autres. Alors peut-être que cette guerre au Yémen qui est catastrophique et ce pouvoir vertical aujourd'hui incarné par Mohamed Ben Salman accouchera finalement d'une volonté de créer une vraie armée digne d'un État moderne. Peut-être qu'on va en arriver là. Ça devrait être la suite logique, en tout cas.
Ouais, alors il faut qu'on passe un peu vite parce que on aurait pu parler de tellement de choses dans la région.
On aurait pu,
parler des relations avec le Qatar qui sont très variables et qui ont même été très proches de la rupture.
Mais là, ils sont réconciliés.
Bon, ils sont réconciliés, donc tout va bien. C'est pas, non, mais on aurait pu parler des relations avec Israël qui sont très problématiques aussi, qui posent plein de questions. Mais ça se rejoint à travers la question, évidemment, de l'allié américain, dont il faut dire un mot, puisque c'est peut-être ce qui dirige le plus la politique étrangère et régionale de l'Arabie Saoudite à présent. Ça, il faut, et ça va nous amener aussi de rejoindre tout, puisque ça va.
Et puis même sur le plan intérieur.
Oui, c'est ça. Mais
c'est très important, la relation.
Tout va être rejoint à travers, évidemment, la personnalité qui est Mohamed Ben Salman, même si on l'a déjà évoqué, puisque c'est la dernière grande crise, mais c'est la crise majeure qui dure depuis 3 ans, bientôt maintenant, qui est celle autour de l'assassinat en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi. Je vous rappelais très rapidement les faits. C'est un journaliste qui, à la base, n'est pas du tout hostile à la famille royale, qui entre plus ou moins en dissidence en 2017, qui quitte le territoire saoudien et qui critique globalement l'arrivée au premier plan de MBS, cette révolution de palais dont on parlait. Et il est très bien introduit dans les milieux américains, puisqu'il fait un article par semaine pour le Washington Post. Et il y a donc ce grand événement quasiment inouï, inconcevable, qui est en octobre 2018. Il est fait prisonnier et tué au consulat saoudien à Istanbul, où il est allé pour une formalité administrative, dans des conditions étonnamment barbares, quoi, par un commando saoudien qui vient sur place juste pour ça. Alors, on va dire que ça a été évidemment dénoncé très publiquement et très fort partout, jusqu'au Parlement américain, malgré apparemment les réticences de l'entourage de Donald Trump, et notamment son gendre, Jared Kushner, qui est très proche, probablement encore, du prince héritier de MBS. Et globalement, on va le dire, tout pointe plutôt vers MBS, Mohamed Ben Salman, plutôt que vers son père. Il semble qu'il aurait pas, Salman n'aurait pas été très au courant à MBS, ça paraît impossible qu'il n'ait pas été au courant, au point qu'un certain nombre de ses proches sont interdits de territoire aux États-Unis. Alors, on va évoquer les conséquences, mais puisqu'on parlait déjà, il faut en parler évidemment de la politique intérieure du royaume, et puisque vous connaissez particulièrement bien cette politique intérieure du royaume, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? C'est-à-dire, est-ce que ce serait une bouffée d'autoritarisme qui s'inscrit dans un mouvement un peu plus long depuis 2011, etc., depuis 2015 aussi, c'est-à-dire l'idée qu'on resserre les choses, on fait des purges, etc., qu'il y a la volonté de s'affirmer et de supprimer les voix dissidentes face à MBS? Est-ce que c'est un sentiment d'impunité totale qui fait qu'il a pu se penser que ça n'aurait pas de conséquences? Comment est-ce qu'on arrive à un truc qui est le coup raté parmi tous les coups ratés, le ratio coût-bénéfice est invraisemblable, les dégâts sont incommensurables pour un bénéfice qui a priori est quand même très très marginal, d'avoir supprimé un journaliste. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de MBS?
Ça, je serais bien en peine de vous le dire, mais une chose est sûre, moi, quand j'ai été régulièrement en Arabie Saoudite en 2017, 2018 et 2019, depuis la pandémie, malheureusement, j'ai plus accès, mais il y a eu quand même une sidération aussi. Les Saoudiens ont été sidérés par ce qui s'est passé, ils n'en revenaient pas. Beaucoup étaient incrédules, c'est pas possible. Je veux dire, pourquoi est-ce que ce prince héritier qui a tout et qui contrôle tout aurait été amené à demander à tuer dans ces conditions Jamal Khashoggi, qui en plus de ça avait un article hebdomadaire au Washington Post. C'est impensable. Donc c'est pas possible. Beaucoup ont dit, alors il est sûr que Jamal Khashoggi était dans le collimateur d'MBS, bien entendu, puisque Khashoggi a parfaitement bien expliqué à la presse américaine et aux congressistes américains que la monarchie al-Saoud était en danger avec cette dérive despotique sous MBS, et que ça pouvait être la fin de la monarchie al-Saoud. Il l'a vraiment écrit dans plusieurs articles au Washington Post. Et ça a fait certainement très très peur à MBS. Et donc que MBS Apparemment, l'idée, c'était de l'exfiltrer et de le faire revenir au royaume. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Un mauvais coup est parti par ce commando et a tué sur place Khashoggi. Et donc, ils ont voulu s'en débarrasser en le coupant en morceaux, etc. Enfin, dans les, est-ce que c'est ça ? Ou est-ce que, délibérément, il a été éliminé, etc. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne saura jamais. On ne saura jamais la fin du mot de l'histoire. Une chose est sûre, ce kidnapping et cette fin tragique de Jamal Khashoggi n'a absolument pas pu se dérouler sans, effectivement, le feu vert d'MBS. En revanche, oui, il a totalement court-circuité les canaux de décision habituels, et il est parfaitement clair que le roi Salman était absolument pas au fait de cette machination, ça c'est certain. Et d'ailleurs, Erdogan en a très très bien joué, très très vite. Il a dit, il est impossible que le roi Salman soit au courant. Et c'est ce qui fait dire que cette ancienne monarchie polyarchique avec les différents pôles de domination par divers princes, c'était impossible que ça se produise sous ce type de configuration, parce qu'il y avait toujours ce fameux check and balance qui faisait que la décision était in fine consensuelle et il y avait un consensus final, et que personne ne pouvait décider tout seul de son côté. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, sur l'affaire Khashoggi. C'est ce qui s'est passé aussi un petit peu sur la décision du blocus avec le Qatar, de concert, évidemment, avec Mohammed bin Zayed, prince héritier des Émirats, qui est à l'origine du blocage avec le Qatar, beaucoup plus que l'Arabie Saoudite. Mais donc, voilà, tout ce type de décision absolument hallucinante et contre-productive, effectivement, sont un petit peu la suite logique de ce glissement ultra-despotique où la décision se fait tout seul dans son coin avec un petit noyau de conseillers qui ne sont pas forcément les plus à même de décider, mais qui se distinguent par leur loyauté. Et donc un Saoud al-Qahtani, un Ahmed al-Hassiri, etc., même si al-Hassiri est un officier et qui sait ce qu'il fait, Saoud al-Qahtani est un espèce d'homme de main de MBS et qui a acquis des pouvoirs considérables et qui est surtout un homme de confiance et du cercle le plus rapproché. C'est lui qui est apparemment à l'initiative de cet assassinat, et c'est lui aussi qui est à l'initiative aussi des interrogatoires musclés des fameuses féministes emprisonnées entre mai 2018 et puis la libération récente de la fameuse Loujain Al-Hassloul.
Donc on aura compris que c'est pas que l'Arabie Saoudite ait jamais été une grande démocratie du tout, hein, mais ni que, enfin voilà, mais c'est simplement que
ça n'était pas un pouvoir despotique, c'était une monarchie absolue.
À une époque où, disons, le pool de l'oligarchie était large, où du coup il fallait se consulter quand même les uns les autres au sein de la famille, certes.
Une certaine collégialité.
Mais du coup, ça tempérait toute initiative un peu trop absurde.
Intempestive, exactement.
Et là, on voit qu'avec la concentration du pouvoir, avec le retour à quelque chose...
C'est exactement ce qu'a décrit Jamal Khashoggi. C'est exactement ce qu'il a décrit, et c'est ça qui a paniqué, bien sûr, Mohammed bin Salman.
Ouais, donc il aurait eu raison à travers la tombe. Je pense que ça lui fait une belle jambe aujourd'hui, oui, mais voilà. Mais donc, du coup, ce par quoi il faut terminer, c'est évidemment les conséquences de ça sur l'alliance américaine. Alors, je l'ai dit, il semblerait que l'administration Trump ait essayé de limiter les conséquences de tout ça, de pas trop ébruiter ça, de faire du damage control en quelque sorte, parce qu'il y avait beaucoup de choses transactionnelles entre le clan Trump et le clan Ben Salman, quoi. Mais il y a un changement très net avec l'administration Biden. Alors, faut pas exagérer non plus, hein, ils vont pas rompre l'alliance saoudienne non plus. Mais il y a un président américain qui affiche qu'il refuse de discuter directement avec le prince héritier, avec MBS. Il y a des proches de MBS qui sont interdits de territoire américain, dont ceux que vous avez mentionnés, évidemment. Même si, bon, les administrations discutent plus largement, il y a des... on efface quand même pas un demi-siècle de coopération et d'alliance préférentielle d'un trait de plume. C'est quand même un signe qui se veut fort. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça et comment est-ce qu'on s'inscrit dans le tableau de l'Alliance qui est, on peut dire, on peut aussi replacer ça dans un contexte plus large, qui est le pivot asiatique depuis une décennie des États-Unis, où ils veulent se désengager de cette région-là. Ils pensaient s'appuyer un peu sur l'Arabie Saoudite pour que ce soit dans la stabilité. De fait, on voit que ça c'est pas une réussite de ce point de vue-là. Donc, comment est-ce que, sans vouloir jouer à la boule de cristal, comment est-ce qu'on peut envisager, disons, l'évolution de cette situation-là avec un grand allié américain qui, de toute évidence, n'est pas très chaud pour l'évolution des pouvoirs internes au sein du royaume saoudien.
Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que MBS a joui d'une impunité totale sous Trump, hein, sous l'ère Trump. Et certainement, cette impunité, l'a certainement autorisé à des choses auxquelles il ne pourrait absolument plus s'autoriser aujourd'hui sous Biden. Donc je pense que le cycle Biden devrait être vertueux, parce que c'est vrai que cet assassinat de Khashoggi n'aurait jamais pu se produire sous l'administration Obama ou sous une administration Biden.
C'est parce que rappelons par ailleurs qu'il y a énormément de leviers. Par exemple, les Américains ne sont plus du tout aussi dépendants du pétrole saoudien qu'à une époque, du fait du gaz.
Ils ne le sont plus du tout. Ils produisent plus de pétrole que les Saoudiens.
Hein. C'est ça. Alors, il y a évidemment les exportations d'armes. Ça fait toujours bien de vendre des armes aux Saoudiens, etc. Mais il n'y a pas de... Les leviers de MBS sont quand même bien inférieurs à ceux qui pouvaient être là il y a 10, 20, 30 ans, dans les mains des précédents rois, que ce soit Abdallah ou...
Oui, bien sûr, la donne a totalement changé. Maintenant, pour Biden, effectivement, le ton a totalement changé. Alors, il a décidé que son interlocuteur... était le roi, mais de toute façon, naturellement, le chef d'État, c'est le roi d'Arabie et non pas le prince héritier. Donc là, rien de nouveau. Mais il a également décidé de ne pas sanctionner Mohamed Ben Salman. Parce que
personnellement. Il a sanctionné tout l'entourage.
Apparemment, 76 personnes vont subir des sanctions. Donc ça, c'est pas rien.
Et puis les sanctions, c'est pas rien. C'est-à-dire, quand on connaît la quantité d'investissements saoudiens aux États-Unis et partout d'ailleurs, c'est pas rien de priver ces gens-là de tout cet argent-là investi, en tout cas.
Oui, et puis de voyages, etc. Hein, donc ça, c'est clair. C'est pas rien du tout. Il ne faut pas minimiser, au contraire. L'administration Biden, en même temps, même si elle dépend beaucoup moins de l'Arabie Saoudite, vous avez raison, sur le pétrole, etc., et qu'aujourd'hui, la priorité stratégique des États-Unis, c'est plutôt d'essayer de maîtriser et canaliser la Chine, hein, et son avancée incompressible. Hein. Mais ils ont besoin de coopérer avec l'Arabie Saoudite, ne serait-ce que pour... cette question du fameux JCPOA, l'accord nucléaire avec l'Iran, ils doivent intégrer également ce que l'Arabie Saoudite dit, notamment depuis que les pays du Golfe ont contracté une sorte d'alliance avec Israël, même si elle est tacite pour l'Arabie Saoudite. Il n'empêche
dans les derniers mois de la présidence Trump, une succession d'accords entre les différents pays, notamment les monarchies arabes, qui n'avaient jamais conclu d'accord de paix, ni même reconnu vraiment directement Israël, qui ont signé des accords. Donc, globalement,
reconnu, si, parce que l'accord de paix arabe reconnaît largement Israël hein, en 2002.
En tout cas, il y a clairement un pas qui est passé.
Qui est franchi, très clairement. Et cela au nom justement du containment de l'Iran. Parce que ces monarchies du Golfe depuis Obama n'ont absolument plus confiance en la garantie de sécurité américaine. Et qui dit garantie de sécurité, pour eux, dit garantie de sécurité de leur régime. Et leur régime, c'est leur État, c'est leur possession. Donc il y a toute cette configuration-là. Et le seul à même, non pas de les protéger, mais d'être en accord sur le fait que l'Iran constitue une menace existentielle, c'est l'Israël de Netanyahou.
Et avec tous les leviers que, pour le coup, l'Israël de Netanyahou a aux États-Unis.
Exactement. Et donc, il y a d'ailleurs, ces monarchies du Golfe ont énormément fait du lobbying auprès de tous ces groupes de pression, notamment proches d'Israël. Les Émirats arabes unis ont fait un travail hallucinant avec leur fameux ambassadeur Youssef Al-Ataiba pendant toutes ces années, depuis les années Trump et bien avant. Et l'Arabie saoudite, pareil. Et le Qatar a investi des lobbies bipartisans. Donc, ce sont des monarques qui connaissent très bien la réalité politique américaine et qui ont énorme, et leurs fonds souverains, notamment depuis le début de la pandémie, ils ont énormément investi dans tout ce qui était Silicon Valley, toutes les compagnies high-tech. Et donc, il y a des intérêts majeurs qui lient les États-Unis à ces monarchies. Donc, il est évident que même si l'administration américaine a plus que son mot à dire en politique étrangère, elle n'est pas toute seule. Il y a des intérêts et des groupes privés et des industries énormes. Et l'industrie d'armement, elle est loin d'être négligeable.
Donc, et l'industrie d'armement veut évidemment continuer de vendre ses armes aux monarchies du Golfe, parce que c'est un des rares débouchés à peu près complètement verrouillés pour
Donc c'est compliqué. Et puis Biden s'est engagé à régler cette guerre au Yémen. Hein, il a été extrêmement tranchant. Il a absolument intimé quasi l'ordre aux Saoudiens d'arrêter les frappes. Alors les Saoudiens, il n'y a pas plus tard que 2 jours, ont fait une offre de paix et extrêmement détaillée où effectivement ils veulent absolument se désengager de ce bourbier. Et c'est finalement une aubaine que Biden leur ait proposé de mettre un terme à cette guerre, parce que la seule chose que veulent les Saoudiens, c'est très clairement s'extirper de cette guerre, mais ils n'y arrivent pas. Ils sont tous les jours attaqués par des missiles des Houthis.
Mais donc, en quelque sorte, pour s'extirper de cette guerre sans perdre la face, disons, le prétexte des relations changeantes avec les États-Unis et le fait que Biden fasse cette fois pression, contrairement à Trump, pour arrêter ses frappes, pourrait servir comme, disons, une porte de sortie, ou en tout cas un semblant de porte de sortie.
C'est clair.
Pour le régime soviétique. Merci beaucoup, Fatia Daziani. Alors, on a bien compris, on pourrait en faire encore beaucoup d'émissions. J'espère qu'on en fera d'autres autour de l'Arabie Saoudite et des monarchies du Golfe, notamment parce qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas abordées, qui sont les relations internes entre ces monarchies. On n'a pas parlé de la grande crise entre le Qatar et les Émirats et l'Arabie Saoudite. Bon, il y aurait d'autres choses à dire sur la péninsule arabique et ses dynamiques. J'espère qu'on le fera.
Oui, je suis toujours à l'IRSEM. Il y aura d'autres occasions.
Très bien. Je rappelle donc votre excellent ouvrage que je recommande vraiment très vivement, L'Arabie Saoudite en 100 questions chez Taillandier, qui est vraiment tout à fait remarquable et très clair, à la fois sur l'histoire de l'Arabie Saoudite, mais aussi sur les dynamiques régionales, qui a en plus connu une deuxième édition l'an dernier, qui est donc vraiment très à jour sur tout ça. Donc merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques, de vos commentaires par mail sur SoundCloud, sur Apple Podcast ou par les réseaux sociaux de l'IRSEM. Commentaires qui sont toujours les bienvenus et qui aident grandement à la visibilité du podcast. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.